Bonjour, Dr Landry.
Hey, bonjour, merci pour l'invitation.
Bonjour. Ben, merci d'être là, c'est super apprécié. Je vous écoutais beaucoup, avec beaucoup d'attention en fin de semaine. Je veux revenir sur, ben, vous avez fait plusieurs tweets. Vous disiez, entre autres, en fin de semaine, l'achalandage sur civière et dans la salle d'attente est en hausse au Québec, non pas parce que les patients sont atteints de la COVID, mais à cause du retour à la vie normale. Alors, puis ça s'observe partout au Québec, hein, Dr Landry, les gens retournent à l'urgence parce qu'évidemment, la vie recommence, les gens se blessent, les gens tombent, donc tout ça reprend, là.
Oui, évidemment. C'est sûr que c'est pas le mois de janvier comme d'habitude. On n'est pas dans des taux d'occupation à au-dessus de 200% comme en plein cœur de la saison d'influenza. Mais ce qu'on remarque, évidemment, c'est un retour des patients vers les urgences. Pendant la pandémie, les gens avaient très, très peur de consulter dans les urgences, restaient chez eux. Parfois, ça causait des problèmes, ça, de rester chez eux, notamment quand on fait un infarctus, par exemple. Mais là, les gens ont recommencé à faire leurs activités, ils ont des accidents d'auto, se représentent dans les urgences. Et malheureusement, nos urgences ne sont plus les mêmes urgences qu'avant la COVID. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a moins de capacité de recevoir des gens qu'avant la COVID. Pourquoi? Ben parce qu'on a maintenant de l'équipement à porter, on a de la désinfection à faire, un peu comme votre coiffeur qui couper peut-être les cheveux de 4 personnes par heure, ben là maintenant, il est capable d'en couper juste 3 à cause des mesures de sanitation. Donc, ça, c'est ce qu'on observe dans les urgences, mais on l'observe aussi au bloc opératoire. Faire la désinfection maintenant des blocs opératoires est beaucoup plus long, et donc ça amène des délais, et ça amène finalement une tendance à la hausse des temps d'attente, qui sont pas catastrophiques en ce moment, mais on est au mois de juin, là, présentement.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est, étant donné que nos urgences ont moins de capacité qu'avant la COVID, quand on va arriver avec une deuxième vague, parce qu'il va en avoir une, là, fort probablement, et quand on va arriver avec la vague de l'influenza qui est prévisible, qui est à chaque année, est-ce que nos urgences vont avoir assez de capacité pour pas qu'on perde le contrôle, finalement?
Oui. Dr Landry, je vous entendais, puis même à l'écrit, vous avez dit un peu la même chose. Vous disiez la COVID est un puissant moteur de changement. Elle permet la réalisation qu'il y a urgence de faire les choses différemment. Comment on peut faire différemment et qu'est-ce qu'on doit faire actuellement pour être prêt si jamais il y a deuxième vague? Comment on peut faire mieux?
OK. Je vous donne un exemple très, très concret. Ça faisait à peu près 2 ans que j'essayais d'instaurer un système informatique pour rediriger les patients des urgences vers les cliniques médicales avoisinantes. OK. Je vous en avais même, je pense, déjà parlé l'année passée en pleine crise de l'influenza. Ça a pris 2 semaines. Quand la crise de la COVID est arrivée, tout d'un coup, les gestionnaires, les médecins des cliniques, les médecins des urgences, on dirait que tout le monde s'est comme aligné en même temps, ont tous comme accéléré finalement ce virage-là. Ça a pris 2 semaines, le système informatique est installé, puis on a commencé à rediriger des patients vers les cliniques. C'est pas parfait. Bien sûr, il faudrait augmenter la quantité de patients qu'on redirige vers les cliniques, mais c'est un exemple pour dire que quelque chose qui niaisait depuis plusieurs années, tout d'un coup, en 2 semaines, c'est fait. Donc, si c'est fait en 2 semaines, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses comme ça qui devraient être faites, mais qui sont peut-être pas accélérées à l'heure actuelle. Et donc, là, je parle de redirection des patients vers les autres cliniques, mais ça peut être aussi d'augmenter la capacité en lit. Hein. Il faut qu'à un moment donné, on ait plus de capacité à l'extérieur des hôpitaux pour les patients vers les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. C'est le temps de le faire parce qu'il y a moins de COVID dans la communauté en ce moment. On a moins de chances de contaminer des établissements CHSLD ou RPA en transférant les patients en ce moment qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont pas besoin d'être là. Ça, c'est le genre de mesure où de nommer un gestionnaire finalement qui va se préparer dès maintenant parce que souvent, ce que je dis, c'est que le système de santé est tellement lourd, il est tellement complexe que ça prend des mois à faire des changements, souvent. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on ait des gestionnaires dans chacune des urgences pour dire, OK, là, il faut tout se coordonner pour se préparer à janvier prochain. Parce que si on le fait pas maintenant, ce sera pas le temps au mois de décembre de commencer à nommer du monde pour dire, OK, là, il faut tout se coordonner pour enlever la pression des urgences, finalement.
OK. Dr Landry, de ce que vous observez jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des endroits où on fait déjà ça, où on est déjà en mode action?
C'est sûr qu'il y a des urgences qui fonctionnent mieux que d'autres. Bon, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que notre urgence fait très bien. Puis c'est pas moi qui est le chef de département, c'est quelqu'un d'autre. Mais souvent, c'est dépendant d'une culture organisationnelle, excusez-moi, qui s'implante sur plusieurs années. Si ça va déjà mal avant que la crise frappe, souvent, ça va continuer d'aller mal. Là, il y avait dans le journal ce matin le bel exemple de l'hôpital de la Chine puis du CHSLD qui est adjacent. Ben eux, tu sais, ils montraient un exemple finalement dans la presse en disant, regardez, ils ont réussi à pas avoir d'éclosion, ils ont réussi à diminuer à pas avoir de décès finalement COVID. Comment est-ce qu'ils ont fait? mais c'était des gens qui avaient déjà une culture de performance, finalement, qui avaient déjà qui avaient nommé des gens directement sur le terrain. Dès que ça l'a parti, il y avait un DG, il y avait quelqu'un qui était responsable de s'assurer que les mesures de salubrité étaient bien en place. Ils ont nommé aussi l'hôpital chinois à Montréal, mm-hmm. mais encore une fois, c'est quoi? C'est une communauté tissée serrée. Ça faisait longtemps que ça allait bien. Donc, il y a des choses que tu peux changer rapidement, mais il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Et n'importe quel chef d'entreprise qui nous écoute en ce moment le sait. Ça prend du temps, créer une culture de travail qui fonctionne bien, une entreprise qui fonctionne bien. Donc, c'est sûr que ça, il y a des hôpitaux qui s'en sont mieux sortis que d'autres.
Oui, c'est vrai, clairement. Dr Landry, dernière question. Bon, là, évidemment, ce qu'on a observé lors de cette crise, c'est que dans nos CHSLD, là, ça a été l'hécatombe, là, dans plusieurs, du moins. Même dans notre région, nous, on a été quand même très touchés. Une deuxième vague arrive, là. Bon, on est en train de former du monde comme préposé. Dans nos CHSLD, est-ce que ce sera moins l'hécatombe? Est-ce que vous pensez qu'on sera plus près que ce qu'on était?
Bien, une des choses que j'ai bien aimé entendre le premier ministre parler, c'est que lui, il voulait avoir des directeurs généraux dans chacun des CHSLD. Donc, en gros, il veut avoir quelqu'un sur le plancher dont le bureau, la porte est ouverte à côté des employés. Donc, si l'employé note un problème, directement, il y a une décision qui peut être prise. Ça, c'est le genre de mesure que je pense qu'ils peuvent faire un bon bout de chemin. De la même façon que ce directeur général-là, quand un patient ou la famille d'un patient va avoir une plainte ou une inquiétude, ben, il est là puis il va pouvoir répondre à la plainte et à l'inquiétude au lieu que le patient puis la famille commence à appeler le numéro 1-806 là, pour trouver quelqu'un qui est en charge de ce CHSLD-là. Donc, je pense qu'il y a une réalisation au gouvernement qu'il faut ce qu'on appelle en jargon gestionnaire, là, décentraliser le système, là, donc mettre des gens qui prennent des décisions directement dans les établissements et non pas dans des bureaux régionaux ou provinciaux. Donc, cette réalisation-là, elle est intéressante. J'espère qu'elle va se poursuivre. Maintenant, c'est sûr que c'est quand on voit ce qui va se faire dans le concret qu'on va pouvoir juger. Bon, je suis optimiste, mais c'est sûr qu'il faut se préparer parce que janvier s'en vient. Puis je veux dire, je veux pas être le prophète de malheur, mais c'est quelque chose qui est prévisible à chaque année. Il faut qu'on soit prêt quand janvier va arriver.
Absolument. Docteur Simon-Pierre Landry, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de vous entendre.
Merci pour l'invitation.
Merci. Bye-bye. Au revoir, à bientôt. Dr Simon-Pierre Landry, médecin à l'urgence de Sainte-Agathe, médecin de famille également à Mont-Tremblant. Très visite, très présent sur les réseaux sociaux. Je trouve que les bons vulgarisateurs aussi.